Brésilienne. Bientôt 18h10, ici à Paris. Fin de ce journal en français facile que vous pouvez retrouver sur françaisfacile.rfi.fr.
Radio G. Just wanna tell you. 101.5 FM.
18h10, 19h, Topette, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins sur Radio G.
Bienvenue dans Topette, la quotidienne de Radio G qui vous dévoile tout sur l'actualité locale. Nous, hier, on parlait de l'exposition Mini Textile qui est en cours au musée Jean Lursa à Angers. Et aujourd'hui, vu que c'est bientôt l'été, il fait beau, il fait chaud, très chaud même, puisqu'on va monter jusqu'à 27 degrés cette semaine. Quoi de mieux que de se donner rendez-vous en bord de Loire, car ça y est, les guinguettes ont commencé à ouvrir. Et on en parle ce soir dans Topette. On vous emmènera au quai des Brunes à Saumur, à la Bafouille sur la pointe de Bouchemaine ou encore à la Toux Cabanée à Saint-Martin-de-la-Place et même à la Barbe à Maman qui va ouvrir ce jeudi à la Daguenière. On va remonter le fil de l'histoire des guinguettes et on va réfléchir à ce que ça veut dire aujourd'hui faire guinguette tout simplement. Il y a d'ailleurs un reportage qui est sorti sur France TV, ça s'appelle « Alors on guinche » et Bruno Kaufmann, gérant de plusieurs guinguettes dans le Maine-et-Loire, en fait partie, il sera avec nous ce soir pour en parler. On aura aussi Aurélia, responsable RH, et Philippe Basquer, président du comité des fêtes de Saint-Martin-de-la-Place. Ce soir, on aura aussi la chronique Vélopédia de Nico, et on aura aussi une brève d'actualité avec Mathéo. Et Topette, c'est parti pour ce soir jusqu'à 19h.
18h10, 19h. Topette, sur Radio G.
Je le disais donc tout à l'heure, ce soir, pour parler des guinguettes, on est avec Bruno Kaufmann, bonsoir.
Bonsoir.
On est aussi avec Aurélia, bonsoir.
Bonsoir.
Et on est avec Philippe, bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Alors peut-être avant de parler des guinguettes, notamment du Maine-et-Loire, c'est d'abord un héritage culturel et populaire qui est bien ancré dans le temps, les guinguettes. Qu'est-ce que c'est historiquement, Bruno, une guinguette ?
Alors les guinguettes sont nées au XVIIIe siècle, il y a bien longtemps maintenant, plutôt aux environs de Paris et notamment en bord de Marne. Et historiquement, les guinguettes, ce dont on s'en rappelle le plus, en tout cas, c'est que ce sont des lieux où l'on danse, des lieux de bals populaires et en tout cas des lieux populaires tout court, où les prix sont accessibles, où l'ambiance est conviviale et festive. Et puis, c'est un héritage qui, semble-t-il, s'est un petit peu perdu. Les guinguettes ont été moins à la mode. Aujourd'hui, ça paraît presque difficile à croire, puisque depuis quelques bonnes années maintenant, elles sont redevenues un rendez-vous phare estival, notamment au bord des fleuves et rivières en France, et en particulier, parce qu'il y a aujourd'hui une densité particulièrement importante en bord de Loire, dans le Maine-et-Loire notamment.
Et qu'est-ce qui explique un petit peu ce regain de... pour les guinguettes, est-ce que c'est de nouveau qu'on s'intéresse à l'écologie, qu'on a de nouveau envie d'être en pleine nature, peut-être ?
Alors mon interrogation à moi, c'est pourquoi ça s'est perdu ? Je comprends pas qu'on ait pu à un moment ne plus avoir envie de boire des bières au bord de l'eau quand il fait beau. Mais en tout cas, de fait, c'est revenu et effectivement, il y a contrairement à beaucoup d'établissements du CHR, disons, des endroits où on mange, où on boit, la dimension naturelle est importante. Et finalement, la guinguette, c'est un petit peu à mi-chemin entre le resto ou le bar de centre-ville et puis l'aire de pique-nique où on apporte soi-même à boire et à manger, mais où c'est moins frais que quand la bière sort d'un tirage pression, par exemple. Voilà. Et puis je dirais, ce qui se cherche dans les guinguettes d'aujourd'hui, c'est la part de la dimension culturelle, avec beaucoup d'établissements qui se diversifient, notamment non pas parce qu'on y trouve à manger et à boire, mais parce qu'on peut y écouter comme musique, y pratiquer comme activité, par la clientèle cible entre guillemets. Mais on aura l'occasion d'en reparler.
Et selon vous, est-ce qu'on peut dire que c'est des lieux un peu de mixité sociale, les guinguettes, on y retrouve tout le monde, c'est vraiment populaire?
Alors, je le disais tout à l'heure, l'histoire des guinguettes, c'est vraiment des lieux qui étaient par nature très populaires, et du coup même un petit peu boudés par la bourgeoisie de l'époque. Aujourd'hui, je dirais que selon les établissements, certaines sont un petit peu plus bobos, d'autres un petit peu plus familiales, certaines un petit peu plus rock'n'roll. Voilà, nous, notre objectif en tout cas avec les guinguettes qui sont portées par l'équipe Sophonie, c'est que ce soit vraiment des lieux de mixité générationnelle d'une part, et puis de mixité sociale, avec tous les défis que ça représente de pouvoir avoir une offre qui puisse à peu près convenir à chacun.
Philippe, du coup, vous êtes président du comité des fêtes de Saint-Martin-de-la-Place. Est-ce que les guinguettes, qu'est-ce que ça vous évoque, les guinguettes? C'est un lieu qui est très fréquenté, justement, un lieu de mixité sociale, comme on disait?
Alors, concernant la guinguette de Saint-Martin-de-la-Place, puisque c'est celle qui nous intéresse, nous, Saint-Martiniens, directement, il faut savoir qu'elle existait, mais qu'elle avait brûlé, au grand regret des habitants. Et lorsqu'elle a été reconstruite 4 ans plus tard, que Bruno l'a prise en charge, immédiatement le lien s'est fait entre le comité des fêtes qui est là aussi pour offrir de l'animation au village et ce que Bruno venait offrir. Donc il y avait une complémentarité, il y avait cette mixité sociale que vous évoquez, et à partir de là le lien s'est établi très rapidement et très clairement.
Alors les guinguettes, il y a vraiment un côté festif, Aurélien, mais il y a aussi peut-être un côté profondément humain dans les guinguettes.
Tout à fait, il y a un côté profondément humain. Je pense que les guinguettes, c'est peut-être avant tout un lieu de rencontre. Et en tout cas, moi qui m'occupe du recrutement, de la formation, de l'accompagnement des salariés, c'est à chaque fois des nouvelles rencontres ou des rencontres qui perdurent dans le temps quand des salariés reviennent l'un sur l'autre. Et donc toujours, je pense, ce goût de la rencontre, de l'autre, du lien social.
Est-ce que Bruno, vous avez remarqué une différence peut-être entre les guinguettes d'hier, d'autrefois et celles d'aujourd'hui, où finalement l'ADN est resté le même depuis toujours?
Alors je n'ai pas connu personnellement les guinguettes du XVIIIe siècle.
J'imagine.
Mais effectivement, étant dans ce jeu-là et dans ces projets-là depuis quelques années maintenant, j'ai eu l'occasion d'en côtoyer pas mal, et pas seulement les nôtres. Je dirais que oui, ce qui se cherche toujours, c'est la dimension danse, enfin que certains n'associent plus du tout à l'esprit guinguette, mais beaucoup d'autres, oui. Je pense notamment à la guinguette de Roche-Corbon, donc rien à voir avec nous, mais qui est aux alentours de Tours et qui fait l'objet d'un documentaire sur France 3 dont on parlera peut-être et dans lequel on a eu l'occasion de participer aussi, qui propose vraiment un grand espace de danse. Alors c'est une guinguette qui est immense dans tous les cas, donc il y a une grande diversité de propositions, mais qui est vraiment un rendez-vous des danseurs qui font 200 km pour venir danser là, etc. C'est vrai que nous, par exemple, on a plus de mal, je dirais, aujourd'hui à donner une vraie place à la danse, qui nécessite à la fois de l'espace, un beau parquet, les bonnes animations musicales, et du coup ça se fait plutôt au hasard de notre programmation musicale et puis de la clientèle qui est là.
Bruno, Aurélia et Philippe, vous restez avec nous, on va continuer à parler de tout ça, de toutes les guinguettes, juste après. On fait d'abord une pause musicale sur le 101.5 FM, on écoute Freud de Big Wool.
We'll be right back.
écoutait Freud de Big Wool sur le 100.5 FM et vous êtes toujours à l'écoute de Topette. On est toujours en train de parler de guinguettes. Et alors, des guinguettes, justement, Bruno, vous en tenez plusieurs dans le Maine-et-Loire. Qu'est-ce qui vous a amené à ouvrir des guinguettes?
Alors, je fais un tout petit détour par mon histoire personnelle, même si c'est pas le cœur du sujet. Moi, je suis issu d'une famille de profs, plutôt, disons, dans des métiers intellectuels que manuels, et très loin, en tout cas, de la restauration. Mais ce monde, celui de la convivialité, le monde de la nuit, ça m'a toujours attiré. Et je dirais que, a priori, ça aurait pu rester un vieux rêve inassouvi, comme plein d'autres. Il se trouve que j'ai fait des études de philo et j'ai travaillé pendant les 10 petites premières années de ma vie professionnelle dans une grande association d'intérêt général sur des projets de travail éducatif et de développement social. Et en particulier, je m'occupais en France de l'ensemble de ce qui était proposé à la jeunesse entre 12 et 30 ans, avec une école, une troupe de spectacle, des maisons de quartier, des camps d'été pour adolescents. Et ma passion professionnelle, ça a toujours été de monter des projets avec des personnes et même autour des personnes. À l'époque, avec principalement des bénévoles, quelques salariés aussi, mais beaucoup de bénévoles. Et je dirais, aujourd'hui, je fais toujours le même métier, mais de fait dans un domaine d'activité qui est très différent. Mais c'est ce qui fait que nous sommes... très peu, ou en tout cas pas seulement des restaurateurs, mais que nous montons des projets qui se veulent à 360 avec à la fois une dimension de convivialité, une dimension culturelle, une dimension de formation et d'insertion. Et en fait, quand on a aussi un restaurant traditionnel à Angers qui s'appelle le Grand Gousier, qu'on a repris en 2015, j'avais à ce moment-là quitté depuis peu mon travail dans cette association. Et pendant 2-3 ans, je me suis vu essayer de devenir ce que je n'étais pas, c'est-à-dire un restaurateur avec des codes qui n'étaient pas les miens, avec des manières de penser, des manières de monter les projets qui d'une certaine manière ne me ressemblaient pas. Et il y a un événement qui a vraiment marqué l'histoire de notre équipe et mon histoire personnelle en 2019, quand la ville d'Angers a lancé un appel à projet pour une guinguette en bord de Maine, à l'endroit où se trouvent maintenant les Halles Biltoki. C'était un espace de plusieurs milliers de mètres carrés où la collectivité avait investi des millions et des millions d'euros pour recouvrir la rocade, etc. C'était un endroit tout propre, tout beau, mais que la collectivité cherchait à rendre vivant. Et l'appel à projet disait demandait un projet pour que les Angevins s'approprient cet espace. Et ça nous avait attiré, ça nous avait séduit, et nous avions proposé un projet qui était beaucoup moins professionnel, abouti, complet, verrouillé, cadré que beaucoup de nos concurrents qui étaient des pros de la guinguette, en gros, mais qui par contre avait eu ce petit coup de génie, je pense. Enfin, c'est comme ça que ça avait été vu par le maire d'Angers, notamment à l'époque, qui était d'avoir mis beaucoup de partenaires autour de la table, une manière de dire, ben vous souhaitez que les Angevins s'approprient cet endroit, regardez, les Angevins sont déjà là, parce que nous travaillions avec la ressourcerie des Biscottes, Emmaüs, un ESAD, des associations culturelles, même déjà des services de la ville, et dans notre dossier, il y avait un petit peu tout ça. Et donc ça s'est appelé la machine à bulles, ça a duré 3 mois, intense, en 2019, ça a été une super expérience pour nous, et ça a vraiment été une bascule dans l'histoire de notre équipe, puisqu'on s'est autorisé à faire ce qu'on était, c'est-à-dire au-delà de simplement proposer à boire et à manger, créer des lieux de convivialité où se mêlent la musique, effectivement la nourriture, la boisson, des ateliers, des activités pour les enfants, etc.
Et alors en 2021, si je me trompe pas date, vous avez ouvert à la Tout Cabanée à Saint-Martin-de-la-Place. Alors c'est un lieu où c'est pas un petit peu une guinguette comme les autres, c'est un lieu qui repose sur des fondations solidaires et il y a un vrai engagement pour l'insertion professionnelle, je crois, Aurélia.
Alors tout à fait, comme dans tous les autres établissements, en tout cas on cherche à ce que la dimension d'insertion professionnelle soit au cœur du travail des salariés, en travaillant aussi bien avec des tout jeunes et du coup en les accompagnant, en les formant. Pour les tout jeunes, en tout cas, c'est l'occasion de découvrir des compétences, de découvrir la prise de responsabilité pour beaucoup de s'y plaire et d'y revenir. Et puis il y a aussi la dimension d'insertion professionnelle pour les tout venants, pas que les jeunes évidemment, mais c'est sûr que dans le recrutement, bah, c'est une des caractéristiques qui nous intéresse, de permettre à tout un chacun de trouver sa place dans la société et de participer au bien commun, je dirais.
Et alors, le recrutement de saisonniers, c'est complètement différent du recrutement de quelqu'un en CDI. Est-ce que chaque année, il y a des personnes qui reviennent pour retravailler dans les mêmes quinquettes?
Alors, on a de la chance d'avoir effectivement des salariés qui reviennent d'une année sur l'autre, qui se plaisent et donc qui reviennent. Après, comme on a tendance à avoir autant de projets que d'années d'ancienneté, bah, on a forcément toujours des nouveaux également. Mais le recrutement des saisonniers est forcément différent en termes de compétences. Notamment, il y a forcément beaucoup de jeunes. On fait des job dating, on rencontre beaucoup, beaucoup de gens. Je dirais que c'est surtout ça la grande différence, c'est la temporalité. Sinon, le recrutement, c'est toujours, comme je disais, une histoire de rencontre, que ce soit un CDI ou un CDD saisonnier.
Et alors, on est toujours en train de former continuellement, du coup, son personnel?
Tout à fait. Il y a de la formation interne. Alors, on essaye aussi d'avoir, évidemment, des salariés qui ont déjà un peu d'ancienneté dans le travail de la restauration. Il faut qu'il y ait des plus anciens pour pouvoir former les plus récemment arrivés, on va dire. Mais de la formation continue, oui, il y en a forcément, d'autant que on intègre beaucoup de salariés au début de saison, là, en avril. Mais ensuite, en juillet, août, ben, il y a besoin de continuer à renforcer les équipes. Donc, tout au long de la saison, en fait, on accueille des nouveaux. Et qu'on forme et qu'on accompagne.
C'est peut-être un des éléments qui fait que nous sommes un peu des ovnis dans ce monde de la restauration. Recruter là en l'espace de d'un mois en gros une cinquantaine de personnes, c'est une galère, c'est vrai. C'est un défi en tout cas. Et peut-être à l'inverse de certains de nos confrères ou collègues, c'est un défi qu'on relève avec élan, parce que oui, c'est plus compliqué que d'avoir une équipe stable qui reste à l'année, et en même temps c'est, comme le disait Aurélia, une occasion de rencontre. Et je dirais que notre objectif, un réel objectif pour nous, c'est que les personnes qui passent dans notre équipe, dans nos équipes, que ce soit pour deux mois ou que ce soit pour plusieurs années, ils trouvent un lieu de croissance, un lieu où elles et ils grandissent, se révèlent à elles-mêmes. Et quand, alors, ça se passe parfois merveilleusement bien, et puis parfois avec plein de péripéties et même des déceptions, bien sûr. Mais en tout cas, quand quelqu'un quitte notre équipe pour monter sa propre entreprise, eh ben, ça nous réjouit d'avoir pu modestement contribuer à ce parcours de vie. Quand quelqu'un se découvre une passion pour ce métier aussi, et puis quand quelqu'un passe simplement parce qu'il est lycéen, lycéenne, étudiant, et il passe deux mois, mais qu'on l'a vu devenir davantage adulte et qu'on sait qu'il retournera à la fac ou au lycée différemment au 1er septembre, eh ben, c'est cadeau pour nous aussi.
Philippe, du coup, vous êtes président du comité des fêtes de Saint-Martin-la-Place. Quel type de partenariat est mis en place entre la Tout Cabanée et la commune?
Ben, fort modestement, nous sommes là pour donner un coup de main quand la Tout Cabanée ou carrément la société Sophonie a besoin d'une aide matérielle principalement. Ce sont donc des bars d'hommes, ce sont des barbecues, ce sont des appareils de ce genre qui sont mis à disposition de cette entreprise, tout simplement. Je voudrais me permettre d'ajouter un petit détail concernant le recrutement du personnel. C'est quelque chose c'est une chose à laquelle je suis extrêmement sensible. Ce qui me séduit énormément aussi, c'est cette variété, bien sûr, des personnels recrutés, mais dans leur profil, on trouve des jeunes, des étudiants qui font le service à table d'une manière très simple et très 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 opérationnelle, je dirais. Et lorsqu'on leur demande ce qu'ils font, à part ce travail-là, donc ce job d'été, on tombe sur des ingénieurs, on tombe sur des masters 2. C'est quand même assez impressionnant de voir cette jeunesse.
Aurélia, c'est le but aussi de recruter des étudiants qui font autre chose dans la vie, de leur donner un coup de pouce?
Ah bah, tout à fait, oui. C'est comme le disait Bruno, en tout cas pour les jeunes comme pour les moins jeunes, le but c'est de continuer à grandir, d'apprendre, de se développer au sens noble du terme.
Et ça permet peut-être aussi de développer des compétences qui peuvent être très utiles dans d'autres domaines aussi.
Tout à fait. Bah, l'autonomie, la prise de responsabilité, c'est de toute façon des choses qui sont recherchées partout. J'ajouterais que cette année particulièrement, ce qui me marque, c'est de voir des jeunes qui reviennent cette année, là, enfin qui sont déjà revenus d'ailleurs, qui étaient mineurs l'année dernière et qui sont passés majeurs, du coup forcément. Et oui, en tout cas, on les voit grandir extérieurement, mais on voit aussi, et ils en parlent facilement, une manière de se mettre au travail qui est forcément différente entre je travaille à l'école pour l'école et j'ai appris à travailler aussi pour moi, pour les autres, pour un groupe, pour un ensemble. Je suis sûre que ça fait des étudiants tout à fait différents.
Et on continuera à en parler tout à l'heure et aussi de l'esprit des guinguettes évidemment. Mais je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire du vélo. On va tout de suite passer à la chronique Vélopédia de Nico.
Je fais de la moto.
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon. Avec Nico, dans Topette.
Bonjour à tous les amis cyclistes de Topette. C'est la pleine saison qui démarre. Et sur les routes, il va y avoir du monde cette année, comme dit souvent l'autre espèce de taureau malin. Ce ne serait donc pas piquer des hannetons que de se faire un petit point sécurité sur les bonnes pratiques du vélo. Encore une fois, oui, je sais, mais pour une fois, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la préfecture. Vous allez pas remettre en cause la préfecture quand même, puisque j'ai rencontré Marie-Isabelle Lemierre, coordinatrice de la sécurité routière du préfet du Maine-et-Loire. Elle était présente avec ses équipes au village sport des Ponts-de-Cé et ils avaient sorti les gros moyens. Je lui ai donc demandé comment faire pour sensibiliser les gens.
C'est vraiment la mise en pratique, hein, puisque le gros avantage du site ici, c'est qu'il y a une piste cyclable donc qui peut être transformée en piste de sécurité routière. Donc c'est la pratique du vélo et de la trottinette. Je rappelle que la trottinette, c'est que pour les plus de 14 ans. Et donc, la mise en pratique pour les enfants et également pour les adultes, puisque nous avons un parcours alcool. On leur met des lunettes comme s'ils étaient alcoolisés et ils tentent de faire un parcours normalement. Et puis, nous avons participé par des quiz et des jeux de manière à ancrer les messages de la sécurité routière auprès du grand public.
Et beaucoup de monde était présent sur les ateliers, une belle affluence, donc réussite pour cette opération. Je lui ai en même temps demandé, Madame Lemierre, c'est quoi un cycliste responsable ?
Un cycliste responsable, c'est un peu comme un motard responsable, je dirais. C'est quelqu'un qui connaît son vélo, qui le vérifie avant de partir déjà, parce que sans frein, sans éclairage, c'est déjà très compliqué. Et ensuite, c'est quelqu'un qui respecte le code de la route au quotidien, c'est-à-dire il s'arrête au stop, il respecte les piétons qui sont plus fragiles que lui, et il fait attention aux automobilistes. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a l'œil partout.
Et puis à l'extérieur, de nombreux enfants s'essayaient au code de la route sur la piste. Et donc naturellement, elle vous donne les bonnes infos pour apprendre aux petits.
Il faut s'entraîner avant d'aller sur la route. Clairement, un enfant, il a le droit jusqu'à 8 ans d'aller sur le trottoir. C'est plutôt un bon conseil de s'entraîner également dans des parcs ou sur des pistes cyclables. C'est très conseillé. Évidemment, il faut respecter le code en tant que parent pour bien l'ancrer dans la tête de ses enfants. Si vous arrêtez pas au stop, les enfants s'arrêteront pas au stop plus tard en allant au collège, ce qui peut être dramatique. Donc, à la fois s'entraîner avant d'aller directement sur la voirie et ensuite bien équiper, vérifier que le vélo de son enfant est bien équipé également avant de partir.
Elle me disait aussi encourager le vélobus pour les trajets maison-école à vélo et que toute initiative qui permet de laisser la voiture à la maison était encouragée par l'État. Peut-être alors que Madame Lemierre ferait une super chroniqueuse pour Vélopédia. En tout cas, avec une chronique comme ça, on frôle l'utilité publique. Allez, salut !
Vélopédia, la chronique qui vous met la tête dans le guidon. Avec Nico, dans Topette.
Nico, que vous pourrez retrouver dans 2 semaines sur Topette. Et nous, on parle toujours des guinguettes ce soir avec Bruno, Aurélia et Philippe. On parlait donc de la Toux Cabanée à Saint-Martin-de-la-Place. Alors du coup, le comité des fêtes apporte beaucoup à la Toux Cabanée, mais la Toux Cabanée, Bruno, apporte aussi beaucoup au comité des fêtes peut-être. Ou Philippe, qui veut répondre. Philippe.
Oui, effectivement, cette forme de partenariat qui existe entre la Toucabanée et le comité des fêtes fait que si nous, de notre côté, nous apportons des coups de main matériels essentiellement, en retour, la Toucabanée nous offre aussi beaucoup. Je prends un exemple qui va avoir lieu sous peu. Je fais de la publicité comme ça, le 15 juin, le rallye automoto organisé par le comité des fêtes. La finale se fait à la Toucabanée et tout le vin d'honneur est offert par la Toucabanée. Souvent, lors d'une manifestation, nous offrons des lots et parmi tous ces lots, il y a forcément des lots de la Toucabanée. Donc voilà, cette interaction, elle est quand même très très vivante et très 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 prégnante.
Bruno, c'est le propre des guinguettes de s'imprégner vraiment du tissu local. C'est ce que vous disiez tout à l'heure hors antenne.
Oui, c'est vrai qu'on a multiplié un petit peu les projets ces dernières années et on pourrait nous soupçonner et parfois même nous-mêmes nous pourrions nous soupçonner de chercher à reproduire un modèle unique. Alors effectivement, dans les différents établissements, il y a bien sûr des points communs et puis on est devenu un petit peu expérimenté. On a des partenaires qui nous suivent sur l'ensemble des établissements. Je pense à Emmaüs, notamment pour le mobilier, par exemple. On a aussi des artistes qu'on programme dans plusieurs établissements. Et en même temps, je suis frappé moi-même. Enfin, pour une part, c'est ce qu'on souhaite, mais pour une part, ça nous arrive. Je suis frappé de voir combien chaque lieu est vraiment unique. Parce que il est fait de ce que le tissu local, de la rencontre en fait entre notre équipe et les acteurs locaux, les gens du coin, et donc ici le comité des fêtes, là les filles qui font des enluminures à Loire-Authion, ou bien concernant la bafouille à la pointe de Bushman par simplement les habitants du coin qui sont parfois aussi mobilisés que nous quand il y a ou un problème de plomberie ou besoin d'organiser une petite animation. Et ça, c'est vraiment la belle nouvelle à chaque fois. On rencontre des gens et ça crée quelque chose qui, du coup, est à la fois nous ressemble pour une part et en même temps est à chaque fois différent. Et finalement, quand on arrive dans d'aussi petits villages que la pointe de Bushman ou Saint-Martin-de-la-Place, on est des gens de la ville, voire des Parisiens, enfin en tout cas des arrivistes. Potentiellement, et je suis vraiment frappé et touché de combien on est à chaque fois incroyablement accueilli et de combien les personnes se saisissent en fait de ce projet. Et finalement, quand il y a à Saint-Martin-de-la-Place un comité des fêtes et une guinguette, la Toucabanée, il y a un grand point commun entre ces deux structures, c'est que les deux cherchent à travailler à ce qu'il se passe quelque chose au niveau local en termes de convivialité, d'animation, de lien social.
Ça joue vraiment un rôle dans la dynamique des villages, finalement.
C'est l'idée, en tout cas, et jusqu'à présent, c'est plutôt quelque chose qu'on nous reflète et donc dont on est assez fiers, effectivement.
Alors, on n'en a pas beaucoup parlé pendant ce début d'émission, mais les guinguettes, c'est aussi beaucoup de musique, Bruno.
Oui, alors c'est un ensemble d'animations. La musique et l'animation majoritaire. On organise en général trois concerts par semaine dans chacune des guinguettes, notamment le week-end, vendredi, samedi, dimanche, avec une programmation la plus éclectique possible. L'objectif, c'est que chacun puisse s'y retrouver. Donc, on ne s'est pas spécialisé dans un genre musical en particulier. D'autres le font et c'est très bien. On n'est pas non plus une salle de concert. Mais en tout cas, il y a une grande diversité musicale. Et puis, au-delà de la musique, l'animation dans les guinguettes, c'est aussi des activités pour les enfants. C'est aussi des ateliers tai chi, pilates, enluminures, je le disais tout à l'heure. Mais parce que à un moment, il y a une rencontre avec quelqu'un qui, localement, vient proposer ce talent-là. Et notre image, donc on utilise souvent, c'est l'image de la place du village, c'est-à-dire ce lieu où à la fois on se retrouve pour boire un coup, parfois pour manger, mais pour organiser un tournoi de pétanque. Et puis parfois, il y a un peintre sur le bord de la place, parce qu'il s'est posé là, comme sur la place du Tertre à Paris, quelqu'un avec une guitare qui joue. Enfin, cet endroit où se mélange et se rencontre à la fois les personnes, les origines sociales, les différentes générations, et aussi les talents de chacun.
Le but, c'est aussi de faire découvrir des artistes locaux de musique. C'est vraiment une scène de découverte, un peu, les guinguettes, parfois.
Oui, c'est une scène de découverte. On a déjà fait même de la scène ouverte. Et les artistes qu'on programme aussi pour des raisons logistiques, financières, globalement viennent ou du Maine-et-Loire ou au plus loin de Nantes, de Tours, de Rennes. Enfin, en tout cas, c'est des gens de la région, oui.
Et on va maintenant, vous restez avec nous, on va maintenant passer à la brève d'actualité avec toi, Mathéo.
L'actualité du moment est très chargée. S'il est évident que nous parlerons dans une chronique future si les choses venaient à se noircir davantage du potentiel conflit armé entre l'Inde et le Pakistan, c'est un autre sujet dont je vais parler aujourd'hui, proche dans le calendrier, enjeu géopolitique tout aussi important et complexe, bien que je vais en grande partie traiter le sujet national aujourd'hui. La journée internationale des travailleurs reste un symbole mondial du rapport des forces économiques, illustration de différents modèles politiques et un terrain d'expression pour toutes les tensions sociales. Alors malgré cela, elle est constamment remise en péril partout dans le monde. Les États-Unis, par exemple, travaillent le 1er mai, c'est étonnant, vous allez le voir tout à l'heure. L'aspect trop révolutionnaire de cette journée n'a pas plu aux politiques libéraux qui ont déplacé cette journée au premier lundi de septembre, le Labor Day, un modèle suivi par les Canadiens, en Australie également et puis en Nouvelle-Zélande où les dates varient. Alors plus grave, l'Afrique du Sud sous apartheid ne reconnaissait pas le 1er mai comme férié jusqu'en 1994, chose qui n'a pas été acquise en Corée du Sud où malgré les constantes mobilisations des syndicats, rien ne bouge. En France, dans une logique de plus en plus libérale, il n'est pas rare de voir des commerces ouvrir malgré les amendes. Une chose illogique, sujet importantissime aujourd'hui avec une nouvelle proposition de loi au Sénat étonnamment portée par l'UDI et sa sénatrice Annick Billon visant à faire travailler à la fois boulanger et fleuriste le 1er mai. Alors pourquoi j'utilise l'étonnement dans ma phrase? Simplement car le préambule du site du parti stipule un bord de centre droit humaniste. Alors pour rappel, l'humanisme c'est une philosophie qui place l'être humain, sa dignité et sa liberté au centre de toute valeur. Or perpétuer une logique d'exploitation plutôt qu'un respect du droit des travailleurs tout en méprisant la mémoire d'une lutte humaine pour la dignité ne rentre que très peu dans les cases d'une croyance en l'homme, pour l'homme et par l'homme. Grand critique du monde académique et de son manque de liberté, Georges Santayana disait « Ceux qui oublient le passé sont condamnés à le revivre ». En ce sens, qui de mieux pour en parler qu'un porte-parole des travailleurs? On écoute la réaction de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. C'était le 28 avril sur LCI.
Il y a 364 autres jours pour ouvrir. Je rappelle que le 1er mai, les patrons peuvent travailler s'ils le souhaitent. Mmh. Mais pour les travailleurs et les travailleuses, c'est férié, c'est chômé. C'est un conquis de la lutte. Ça fait quasiment 80 ans que ça dure et ça ne pose pas de difficultés particulières. On sait survivre un jour sans avoir sa baguette de pain le cas échéant. Et c'est très important que ce jour reste férié et chômé. Rappelez-vous, c'était exactement ce qu'on nous disait le dimanche en nous disant de toute manière le dimanche est payé double. Donc qu'il faut laisser les salariés qu'ils souhaitent travailler le dimanche. Le résultat, c'est qu'on a complètement libéralisé le travail du dimanche et que moi, j'interroge toujours, chaque dimanche, j'interroge les salariés que j'ai en face de moi en leur demandant s'ils sont bien payés double. Et de plus en plus, il y a des majorations de 10% ou pas de majoration du tout et encore moins de volontariat. Ouais. Qui sont les travailleurs et les travailleuses du dimanche? Ce sont beaucoup des femmes, d'ailleurs, souvent, par exemple, en situation monoparentale. Il faut quand même se rappeler pourquoi est-ce que on a interdit le travail du dimanche et limité le travail la nuit et les jours fériés. C'est pour avoir du temps pour nos proches, pour nos loisirs, pour notre vie, pour nos familles. Ce sont les mêmes qui veulent généraliser le travail du dimanche et qui derrière fustigent des parents soi-disant démissionnaires ou laxistes. Moi, mon métier, c'est d'être CPE en lycée professionnel. Je n'ai jamais vu de parents démissionnaires. Par contre, j'ai vu plein de parents qui ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants parce qu'ils travaillaient le soir, la nuit ou le week-end. On a besoin de pouvoir passer du temps avec ses proches, de pouvoir faire société ensemble. Et ça, c'est le rôle des dimanches et des jours fériés.
Prendre du temps pour soi, réintégrer une cohérence du temps passé au travail avec cet exemple donc du dimanche et la peur d'une récidive. Des motivations qui ne sont pas nouvelles, je vous en parlais tout à l'heure, de l'étonnement quand on sait que les États-Unis ne participent pas à la journée des travailleurs. C'est parce que ce sont les leurs qui l'ont créé. Le 1er mai 1886 plus précisément, lorsque des centaines de milliers d'ouvriers se mettent en grève et sortent dans les rues pour revendiquer la journée à 8 heures. Notez qu'à l'époque, la norme c'est plutôt des journées de 12 à 15 heures, 6 jours sur 7. Une journée malheureusement iconique par la gravité de son impact à Chicago, notamment trois jours plus tard. Après les grèves générales du 1er mai, un nouveau rassemblement est organisé à Haymarket Square qui va très vite dégénérer. Une bombe explose, tuant 7 policiers, leur collègue riposte et tire dans la foule, tuant entre 4 et 8 ouvriers et en blessant une dizaine d'autres. Une vendetta qui a pris fin le jour même, mais un esprit qui resta le lendemain dans la tête des policiers qui se mettent alors à arrêter et accuser à tort nombre de grévistes. Le massacre du Haymarket est à l'origine du 1er mai, instauré en en 1889 lors du congrès de la deuxième internationale ouvrière. Le premier et pas le 4 car c'est le jour choisi par les syndicats pour cette grève générale. C'est donc aux États-Unis que cette journée est née et que le storytelling est né également, alors bien plus tard dans les années 90, mais c'est quelque chose d'ancré dans la culture américaine. Rappelez que la répression policière a tué des ouvriers ce jour du 1er mai 1886 puisque c'est comme cela que la journée est représentée pour beaucoup de leurs politiques. Ce n'est pas acceptable et donc on crée une nouvelle journée pour passer sous silence ce fait historique, comprenez ainsi le fameux Labor Day. La fête des travailleurs devint alors internationale et arrive en France l'année suivante dans les grandes villes, victimes là aussi de violentes répressions. Un symbole naît, le triangle rouge désignant les trois revendications, 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de sommeil, accompagné d'un brin d'églantine rouge devenu le muguet aux alentours de 1907 comme symbole de bonheur mais aussi de solidarité ouvrière. Le bouleversement en France n'arrive que 29 ans plus tard, en 1919, lorsque l'État accorde aux ouvriers la journée de 8 heures et reconnaît alors le 1er mai comme une journée de mobilisation ouvrière. Il faudra cependant attendre 1947 et le ministre communiste Maurice Thorez pour voir le 1er mai devenir férié, l'après-guerre comme mère de grands changements et le 1er mai comme l'enfant d'une lutte qui n'est pas née dans la douceur des fêtes printanières. Comprenez donc l'importance d'une telle journée dans la symbolique comme dans le calendrier. Certains ont la possibilité de travailler le 1er mai, notamment les lieux essentiels qui ne peuvent pas fermer, comme les hôpitaux, les EHPAD ou les commerces ravitaillant ces lieux. Logique, mais certaines enseignes et certains secteurs en profitent, comme quelques hôtels ou restaurants. Et c'est alors là que le problème se pose. Voir des McDonald's ou des Burger King ouverts en France sous un soi-disant strict encadrement qui, dans les faits, ne précise rien, cela va à l'encontre donc de la genèse même de cette journée et de son apport. Le 1er mai, c'est avant tout la reconnaissance des luttes et un moyen de garder en mémoire le sacrifice de nos prédécesseurs qui se sont battus pour avoir plus de temps pour leur famille et pour eux-mêmes. Travailler le 1er mai, c'est la preuve du retour d'une époque plus précaire pour les travailleurs, d'une dérégulation au nom d'une nécessité qui n'en est pas vraiment une. Et c'est pour cela que les luttes syndicales durent aujourd'hui. Le 1er mai est fêté dans plus de 80 pays. C'est un enjeu géopolitique et une lutte sociale mondiale qui nous reconnecte chaque année aux droits des travailleurs partout dans le monde. Et il ne faut pas minimiser cela. Alors cette journée, elle permet aussi d'autres initiatives. À Brissac, par exemple, cette année, avec les randos de l'autisme servant à mobiliser autour du handicap. Plus largement, cette journée est devenue par la manifestation, et donc se perpétue par la manifestation. En ce sens, dans le Maine-et-Loire, 4 manifestations ouvrières sont prévues ce 1er mai, avec l'idée de défendre nombre de sujets plus larges, comme la paix dans les différents conflits armés, les salaires, les retraites, ou de manière plus locale, le sauvetage des magasins de la Sadel, de Saint-Serge et de la librairie Contact. Le premier rassemblement prendra place à 10h à Segré, place du Port. Sur Angers, rendez-vous à 10h, place Saint-Bac, où un millier de personnes sont attendues. Même heure, place Travaux à Cholet et place de la Bilange à Saumur, à l'heure où, dans une logique macroniste, les multipropriétaires de boulangeries souhaitent faire s'effondrer ce symbole, notre symbole conquis dans le tragique, alors que les morts au travail sont en hausse, alors que presque un employé sur deux se trouve dans une détresse psychologique. Le 1er mai se dresse comme l'aiguille aimantée d'une boussole progressiste guidant le travailleur vers un droit collectif, lui évitant un monde où il serait esclave de la productivité. L'enlever serait comme perdre de vue toutes les richesses qui guident notre destin. Et je pense que personne ne souhaite enterrer un livre dont il reste tout à écrire et voir ses pages blanches salies par le goût du métal ou la soif de l'or noir.
Et c'est déjà bientôt à la fin pour Topette. Alors peut-être qu'avant de se quitter, on peut peut-être rappeler quelques informations pratiques. Peut-être où retrouver les horaires de vos guinguettes. On les a pas toutes citées. Peut-être qu'on peut toutes les citer. Bruno, Aurélia.
Oui, alors à Saumur, c'est la guinguette qui s'appelle le Quai des Brunes. Page Insta, page Facebook. C'est ouvert de 11h à 1h du matin tous les jours. La Toucabanée à Saint-Martin-de-la-Place, ouvert de 11h à 1h du matin, tous les jours. La Barbe à Maman qui arrive donc ce jeudi, c'est l'inauguration à 16h avec plein d'animations, des poneys pour les enfants, de la musique, un DJ, pour le coup un bal dansant, de la nourriture, à boire évidemment. La Bafouille. Qui est ouvert toute l'année pour le coup, et en haute saison 7 jours sur 7 de 11h à 2h du matin. Et enfin le restaurant Le Grand Gousier en centre-ville, tous les jours, service du midi et service du soir.
Merci beaucoup Bruno, Aurélia et Philippe d'être passés dans Topette ce soir. Alors si vous passez du côté de Saumur, Saint-Martin-la-Place, Bouchemaine ou encore la Daguenière cet été, n'hésitez pas à faire un petit détour par l'une de ces guinguettes. Et souvenez-vous surtout, plus qu'un lieu, une guinguette c'est une invitation à la danse, à la fête et surtout aux rencontres bien évidemment. Je vous rappelle que vous pouvez toujours visionner le documentaire sur France TV, du coup ça s'appelle Alors on guinche et on retrouve Bruno Kaufmann et toute son équipe avec la guinguette La Tout Cabanée. Moi je vous dis je vous dis pas jeudi parce que jeudi c'est férié. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve dès lundi. À demain et Topette à lundi pardon.
Radio G 101.5 FM.
Je subis ton nuage toxique. Tes yeux bleus sont devenus violets. Tu ne me vois pas, je m'en fous. Mes larmes sont électriques. Le palier m'appartient dorénavant. Je ferme les yeux, les miens bien trop souvent. Couteau à la main tous les matins. Se demande si ce n'est pas tout ce sang qui coule sur mon visage. Comme si ton vivant était mort. J'arrache tes dents dans mes cauchemars. Tu me suicides à coups de taser. Je prends la fuite quand j'en ai marre. Je cours vite flinguer ta sœur.
Crève-toi les yeux, tu verras mieux qu'il n'y a rien à voir quand il fait noir. Je passe mon temps à t'éviter tout en voulant te posséder. Encore boucher mon évier, ça devient rituel de lendemain de soirée. Ai-je aimé ton chagrin? J'en sais trop rien, tout est flou ce matin, elles sont sales tes mains. Tapis roulant et marre de sang, entre les morts et les vivants. Crève-toi les yeux, tu verras mieux. Crève-toi les yeux, tu verras mieux qu'il n'y a rien à voir quand il fait noir. Je passe mon temps à t'éviter tout en voulant te posséder. Encore boucher mon évier, ça devient rituel de lendemain de soirée. Ai-je aimé ton chagrin? J'en sais trop rien, tout est flou ce matin, elles sont sales tes mains. Tapis roulant et marre de sang, entre les morts et les vivants. Crève-toi les yeux, tu verras mieux.
Stop tapping on me, stop trying to compete. Keep wanting all the things that make my heart beat. Just a normal love, let me sleep. Take off where I lift off, will I lose and all my feet?
Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor. Trying to get this life together since it's been torn. Jigsaw, jigsaw, always wanting more. Just too many pieces to fit in this jigsaw. Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor. Trying to get this life together since it's been torn. Jigsaw, jigsaw, always wanting more. Just too many pieces to fit in this jigsaw. Jigsaw, jigsaw. Try to complete. Keep wanting all the things that make my heart beat. Just to know my love, let me slip it. Take off where I left off, with that losing all my feet. Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor. Trying to get this life together since it's meant to be torn. Jigsaw, jigsaw, always wanting more. Just too many pieces to fit in this jigsaw. Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor. Trying to get this life together since it's meant to be torn. Jigsaw, jigsaw, always wanting more. Just too many pieces to fit in this jigsaw. Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor. Trying to get this life together since it's been torn. Jigsaw, jigsaw, always wanting more. Just too many pieces to fit in this jigsaw. Jigsaw, jigsaw, pieces on the floor. Trying to get this life together since it's been torn. Jigsaw, jigsaw, always wanting more. Just too many pieces to fit in this jigsaw. Jigsaw.
Savourez nos différences.